Bienvenue. Alors aujourd'hui, on va parler d'une réunion de haut niveau qui a eu lieu le 28 janvier 2026. C'était au ministère du Travail à Paris. Le sujet? L'intelligence artificielle. Et surtout, son impact sur le monde du travail. Pas dans le futur, hein, mais maintenant. Et pour en parler, on a mis la main sur une source assez range, le compte-rendu d'un des participants, Grégoire Dacheux, du syndicat CFTC. C'est ce document qu'on va décortiquer ensemble. Et attention, c'était pas juste une petite table ronde, hein. C'était une rencontre franco-allemande, ce qui est toujours un signal fort en Europe. Il y avait les grands syndicats français CFDT, CGT, CFTC et leurs homologues allemands. Et en face, le patronat, genre le MEDEF. Bref, tous les partenaires sociaux, comme on dit.
Exactement. Et ce qui nous intéresse, c'est de comprendre leur perspective. Comment ces acteurs qui sont vraiment sur le terrain voient arriver cette IA, cette vague de l'IA? Ils sont un peu pris entre deux feux. D'un côté, un potentiel qui a l'air immense, et de l'autre, des risques très concrets pour les emplois, pour les entreprises. On va donc regarder leur diagnostic, leurs craintes et surtout leurs propositions pour ne pas se faire déborder par la technologie.
Pour commencer, il y a un truc, une observation dans la note qui pose vraiment le décor. On y lit que l'IA, ça existe depuis 70 ans. 70 ans. Mais, et c'est ça qui est fou, elle ne nous comprend réellement que depuis 3 ans. Cette accélération soudaine, c'est sidérant. Comment on explique ça?
C'est toute l'histoire de la dernière décennie, en fait. Pendant très très longtemps, l'IA, qu'on appelait symbolique, elle était basée sur des règles très strictes, écrites par des humains. Le vrai basculement, c'est l'approche neuronale dans les années 2010. Là, au lieu de donner des règles, on a donné aux machines des quantités astronomiques de données pour qu'elles apprennent toutes seules.
Et ces données, elles venaient d'où? J'imagine que c'est là que les GAFAM entrent en scène.
Précisément. Les GAFAM, donc Google, Amazon, Facebook, etc., ont fourni le carburant. Toutes nos recherches, nos photos, nos textes. Tout ça a servi à entraîner ces nouveaux moteurs. Et l'un des grands architectes de ces moteurs, c'est un Français, Yann LeCun, qu'on surnomme parfois le pape de l'IA moderne.
D'accord. Donc on a le carburant, on a les moteurs, mais quelle a été l'étincelle qui a vraiment tout fait exploser?
L'étincelle, c'est un article de recherche publié par Google en 2017. Le titre est presque poétique. Attention is all you need.
L'attention est tout ce dont vous avez besoin.
Voilà. Et cet article, il décrit une nouvelle architecture, le transformer. Et ça, c'est la révolution.
Le T de GPT, j'imagine.
Exactement.
Mais concrètement, qu'est-ce que ça change, ce transformer?
Pour faire simple, avant, les IA lisaient un texte mot après mot, dans l'ordre, un peu comme nous. Le transformer, lui, il peut regarder toute la phrase, voire tout le paragraphe, d'un seul coup. Il comprend les relations entre tous les mots en même temps, et c'est ça qui lui donne cette fluidité, cette capacité à générer un texte qui a l'air cohérent. C'est le cœur du réacteur.
Et à partir de là, c'est l'emballement. OpenAI prend cette technologie, lance GPT-1, GPT-2, puis GPT-3 en 2020. Et fin 2022, c'est le raz-de-marée ChatGPT. Et là, cette puissance, elle arrive entre les mains de millions de gens.
Et c'est là que la prise de conscience devient collective, en fait. L'accélération n'est plus seulement technique, elle devient sociale. Tout le monde peut parler à une machine.
Ce qui nous amène à cette phrase dans le document, qui a une portée presque philosophique. Je cite: Pour la première fois dans l'histoire de l'humanité, une entité non humaine échange avec nous. Quand on s'arrête 2 secondes là-dessus, c'est vertigineux.
Oh, l'ordinateur, ils font ce qu'on leur dit. Là, on dialogue avec l'outil. C'est complètement différent. Et c'est cette interaction qui force tout le monde, des gouvernements jusqu'aux syndicats, à se poser des questions fondamentales.
Mais au milieu de cet enthousiasme, le document appuie assez vite sur le frein. Il cite des voix qui appellent à garder pied sur terre. Comme l'écrivain et chercheur Luc Julia qui a carrément titré ses livres « L'IA n'existe pas », puis « L'IA n'existait toujours pas ». C'est une vraie provocation, non?
C'est une manière un peu choc de dire « attention ». Attention à ne pas tomber dans l'anthropomorphisme. Il ne faut pas prêter à ces machines une conscience ou une intelligence humaine qu'elles n'ont pas. Et la note donne des exemples très concrets de ces limites. Le premier, c'est les voitures autonomes. On nous les promet depuis 10 ans.
Et pourtant, on n'en voit toujours pas partout dans les rues. On est loin du compte.
Exactement. Elle peine à atteindre le niveau 3 d'autonomie, sur une échelle de 5. Et pour y arriver, la note précise bien qu'il faut leur ajouter des capteurs LIDAR, des lasers qui scannent tout. C'est décrit comme une béquille technologique qui est inspirée des chauves-souris. Ce n'est pas de la pure intelligence logicielle. On doit encore donner des sens physiques à la machine.
Et ce qui est fort, c'est que l'autre avertissement vient de Yann LeCun lui-même. C'est pas un technophobe, c'est l'un des pères de la techno. Donc quand il dit de ralentir, on l'écoute.
Tout à fait, et son argument est double. D'abord, il y a la puissance brute. Il rappelle que notre cerveau, c'est l'équivalent de 150 des cartes graphiques les plus modernes. L'échelle est juste incomparable. Mais son point le plus important, il est ailleurs. Il dit que les IA actuelles, elles sont centrées sur le texte. Or, et je le cite, le langage n'est pas le substrat de la pensée humaine.
Autrement dit, c'est pas parce qu'une machine est championne du monde de Scrabble qu'elle pense. C'est un peu un perroquet super brillant, mais pas un philosophe.
C'est une excellente image, oui. Elle imite, elle prédit le mot suivant avec des probabilités, mais elle n'est pas l'expérience du monde, pas les émotions, pas la conscience. Et puis, il y a la dure réalité économique. Le document mentionne une étude du MIT qui est une vraie douche froide.
Oui, les chiffres sont brutaux, hein. 500 milliards de dollars investis dans le secteur de l'IA.
Pour seulement 35 millions de dollars de bénéfices. Pour l'instant, l'étude conclut que l'IA n'est pas encore rentable à grande échelle. C'est un pari énorme sur l'avenir, mais le retour sur investissement, il se fait encore attendre.
Alors, que faire? On a d'un côté un potentiel de révolution, de l'autre, des limites techniques et une rentabilité qui n'est pas là. Comment on avance? L'enjeu est immense, surtout quand on lit dans la note que des boîtes comme Capgemini a annoncé un plan de départ pour 2400 salariés, en justifiant ça notamment par la réorganisation vers l'IA. Là, ça devient très concret.
C'est exactement le cœur du problème posé dans cette réunion. Et la philosophie proposée par les syndicats, elle s'inspire d'une vieille expression de la diplomatie « la confiance n'exclut pas le contrôle ». En clair, on ne peut pas juste donner les clés du camion à l'IA et espérer que ça se passe bien. Il faut un pilotage humain. Et le concept qu'ils mettent sur la table, c'est la co-gestion.
La co-gestion.
Oui, très inspiré du modèle allemand, où les représentants des salariés sont au conseil d'administration, ils participent vraiment aux décisions stratégiques.
Et pour illustrer ça, ils utilisent une analogie que je trouve géniale. La voiture de rallye. La direction de l'entreprise, elle pilote. Elle tient le volant. Mais les syndicats, eux, doivent être le copilote.
C'est une image très parlante.
Oui, elle est puissante parce qu'elle n'est pas dans l'opposition. C'est de la collaboration.
Exactement. Le pilote et le copilote, ils ont le même but. Finir la course et, si possible, la gagner. Mais ils ont des rôles différents, complémentaires. Et la note détaille justement les missions de ce copilote syndical.
Si on file la métaphore, la première chose que fait un copilote de rallye, c'est gérer le rythme, non ? Annoncer les virages, dire « accélère » ou « freine ».
C'est tout à fait ça. La première mission, c'est de gérer la vitesse. Ne pas aller trop vite, pour éviter de brûler les équipes, de créer des risques psychosociaux, mais ne pas aller trop lentement non plus, pour ne pas se faire distancer, et pour garantir que les compétences des salariés restent à jour. C'est un équilibre à trouver.
D'accord. Et après la vitesse, le copilote, il a la carte sur les genoux, il annonce la route.
C'est la deuxième mission, lire la carte. Ça veut dire pousser l'entreprise à former tout le monde, du dirigeant à l'employé. Il faut développer ce qu'ils appellent l'art du prompt.
Apprendre à bien parler aux machines, en gros.
C'est ça, pour en tirer le meilleur. L'idée, c'est de passer du shadow IA, c'est-à-dire l'IA que les salariés utilisent un peu en cachette sans aucun contrôle, au self IA, une IA maîtrisée, comprise.
On n'est plus dans la subie, on est dans l'apprivoiser. Et j'imagine que le copilote doit aussi s'assurer qu'on n'écrase personne sur le bord de la route.
Troisième mission, 2. Faire attention aux piétons. C'est une métaphore, bien sûr, pour la protection des données, celles des salariés, mais aussi celles des clients. On est en plein dans le cadre du RGPD, le Règlement sur la protection des données, et du tout nouvel IA Act. Le copilote est là pour dire « attention, on respecte les règles ».
Logique. Il y a aussi l'aspect plus mécanique. Le copilote, il surveille les jauges, non ? L'essence, l'huile.
Oui, il vérifie la jauge d'essence. Et là, c'est une allusion très directe à la consommation énergétique monstrueuse des grands modèles de langage. C'est un rappel que cette technologie a un coût environnemental bien réel.
Un point essentiel, qu'on oublie souvent.
Très souvent. Et il reste deux dernières missions fondamentales. La première,
point.
Garder tous les passagers à bord. Le copilote doit tout faire pour éviter les licenciements.
Et comment ?
En insistant sur la mise en place de dispositifs de GEPP, la gestion des emplois et des parcours professionnels. C'est un peu technique comme nom.
Mais l'idée, c'est d'anticiper, anticiper les métiers qui vont changer et former les gens maintenant pour qu'ils soient prêts demain au lieu de devoir s'en séparer plus tard.
Voilà, c'est une vision préventive, pas curative. Et enfin, la dernière mission, c'est de rester vigilant, surveiller la route en permanence. Donc repérer les erreurs de l'IA, ces fameuses hallucinations, mais aussi les biais qu'elle peut contenir.
D'accord, l'image du copilote est très claire. Mais bon, ça sonne bien dans une salle de réunion. Concrètement, qu'est-ce qui se passe après ? Comment on passe de cette belle analogie à des actions réelles ?
La fin du compte-rendu est consacrée à ça, justement, aux prochaines étapes. Il y a plusieurs pistes. La première, c'est de mettre en place un suivi dans la durée, pour que ça ne soit pas juste une réunion de plus, quoi.
On évite la réunionite en somme.
C'est l'idée. Ensuite, sur le modèle allemand, il est proposé de créer un observatoire de l'IA, une sorte de tour de contrôle pour suivre son déploiement, ses impacts. Il y a aussi l'idée de s'appuyer sur les travaux de la CNIL, notre gendarme de la vie privée, qui a déjà beaucoup réfléchi à l'interaction homme-machine.
Et au niveau purement français, entre syndicats et patronats ?
Là, l'objectif est très ambitieux. Négocier un ANI, un accord national interprofessionnel, ce serait un texte cadre majeur qui s'appliquerait à toutes les entreprises pour fixer des règles communes.
D'accord.
Et à plus court terme, une déclaration commune franco-allemande pour envoyer un signal politique fort au niveau européen.
Le calendrier a l'air de s'accélérer d'ailleurs. Le document mentionne une conférence imminente.
Oui, le 11 février, une conférence internationale sur l'IA et le monde du travail. Le timing n'est pas un hasard, ça montre une volonté de maintenir la pression et de s'inscrire dans un dialogue global. En lien avec les discussions du G7, le sujet est devenu géopolitique.
Pour conclure, si on revient au message de fond de ce plaidoyer syndical, quelle est la synthèse ? L'idée qu'il faut retenir ? Conditionnel.
L'IA est vue comme un virage technologique à ne surtout pas manquer. Il parle même d'une source d'enrichissement collectif inédit.
Les mots sont forts.
Très forts. Mais, et c'est un mais énorme, il y a une condition absolue pour que cette promesse se réalise. Il faut préparer activement et intelligemment sa mise en œuvre. On ne peut pas juste la laisser arriver.
Et cette préparation, elle repose sur quoi ?
Sur deux grands piliers. Le premier, c'est l'éducation et la formation. À tous les âges, pour les jeunes à l'école et pour les salariés avec la formation continue. L'objectif, il est simple, que l'humain reste le maître de l'outil et ne devienne pas son serviteur.
D'accord. Maîtriser et non subir. Et le deuxième pilier ?
C'est la souveraineté technologique et numérique. C'est l'idée que l'Europe, que la France, doivent être capables de développer leurs propres IA selon leurs propres règles éthiques et sociales, sans dépendre entièrement de modèles conçus à l'autre bout du monde avec d'autres valeurs. Et si on veut prolonger un peu la réflexion, cette analogie du rallye, elle est vraiment excellente. La direction au volant, les syndicats ont copilote. C'est une image puissante. Mais elle soulève une dernière question, qui n'est pas dans la note. Qui représente la voix des passagers ? Tous ces salariés qui sont à l'arrière, qui ne sont ni pilotes ni copilotes. Si le pilote et le copilote ne sont pas d'accord sur la carte ou sur la destination, comment on s'assure que le voyage profite à tout le monde dans la voiture ? C'est peut-être ça le prochain grand enjeu de ce dialogue.